Bruit en lecture. Bruit en lecture, une émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour vous donner éventuellement envie de le lire à votre tour, ou bien tout simplement de découvrir l'auteur que nous aurons choisi. Et ce, tranquillement installé chez vous en écoutant la lecture d'extraits choisis par Magali et ou Catherine. Mm-hmm. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Alors on va refaire le bonjour parce que Magali, on t'a pas entendu.
Ah, bah bonjour. Voilà. Et ben voilà qui est clair. Là c'est mieux. Hein. Voilà.
Bien, alors qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui tout simplement? Hein, je crois que c'est Magali qui a choisi, n'est-ce pas?
Oui, donc du coup...
Mais vous avez lu toutes les deux
Catherine
le récit.
Catherine a lu aussi.
J'ai lu, oui. Ouais,
tout et à il ne s'agit pas exactement d'un roman?
Non, bon. Pas tout à fait.
On a envie d'en savoir plus.
Oui, on en a un petit peu rediscuté toutes les deux. Effectivement, c'est entre le récit et le témoignage, puisque l'auteur Paul Gasnier raconte la mort brutale de sa mère, survenue il y a presque 13 ans. Le livre s'appelle « La collision ». Il est paru chez Gallimard et il a notamment fait partie de la première sélection du Goncourt 2025, ce qui n'est pas rien. Et pour situer le contexte, on va tout de suite passer à deux courts extraits. La lueur bleue de l'écran a éclairé le plafond de la chambre avant que ne résonne le Nokia Tune, un air de guitare conçu pour être reconnaissable à la première note. Le genre de mélodie annonciatrice de catastrophe lorsqu'elle sonne au milieu de la nuit, quand elle ne devrait pas. J'ai 21 ans, je vis à Bombay, où je travaille auprès du consul général de France. Ce 7 juin 2012, à 3h18 du matin, 23h48, heure française. J'avais noté ces heures dans un carnet à l'époque. Mon cerveau en sommeil est encore englué par la bière avalée la veille en pinte dans un bar hors de prix et sans charme. Je me rendors, mais la sonnerie du téléphone insiste. « Paul, ta mère a eu un très grave accident. Elle est entre la vie et la mort. Il faut que tu rentres à Lyon au plus vite. » L'échange dure quelques secondes, le temps de me lever d'un bond et de reprendre mes esprits. Un mec lui a foncé dessus à moto, apparemment je n'en sais pas plus. Elle est à l'hôpital, dans le coma, ses chances de survie sont très faibles. L'appel se fait télégramme, clinique, précis, sans un mot qui dépasse, pour prioriser la logistique et tenir l'émotion en respect. Quelques affaires jetées en vrac dans un sac à dos, je descends à pas de loup au rez-de-chaussée de la petite maison que j'occupe dans un des rares quartiers paisibles de la ville. Dehors, pas un bruit. Le monde vient d'éclater et la nuit s'en fout. Le corps tendu par l'urgence, je réveille un chauffeur de taxi qui dort dans son habitacle et qui accepte de m'emmener à l'aéroport. À l'escale, quelque part dans un pays du Golfe, un dernier appel précise la gravité de ce qui est en train de se passer. « Paul, il est possible qu'elle décède quand tu seras dans l'avion. » Roissy Charles de Gaulle, terminal 2F, gare TGV, Lyon-Pardieu. Il fait nuit. Mon père attend à la sortie de la gare sous une pluie biblique. Ma sœur vient d'arriver à Lyon et se tient à ses côtés. Elle a reçu le même coup de téléphone que moi quand il faisait encore jour sur son fuseau horaire. On se réunit dans la cuisine de l'appartement familial, à 3, au lieu de 4, 24 heures après la collision. La famille idéale, épargnée jusque-là par les coups du sort, se retrouve mise KO, debout par une catastrophe qui échappe totalement à son monde. Le récit que nous fait mon père de l'enchaînement de la journée est ponctué de « c'est pas possible », murmurer la main devant la bouche. Une réaction spontanée qui indique qu'il est inconcevable qu'une histoire pareille nous arrive à nous. Le mal ne peut pas nous frapper, surtout celui-là. Que notre mère ait été écrasée par un délinquant récidiviste est invraisemblable. Pour la première fois, la vie nous tabasse, pour de vrai, avec poing dans la gueule et coups de pied dans les côtes avant de partir.
Le 6 juin 2012, à 17h13 précisément, selon l'horloge intégrée aux caméras de surveillance municipale, Saïd, 18 ans, qui est alors délinquant récidiviste, remontait une rue étroite des pentes du quartier de la Croix-Rousse. En roue arrière sur une motocross lancée à 80 km/h. Après quelques mètres, il en perdait le contrôle. La roue avant percuta en pleine tête une femme de 54 ans qui pédalait devant lui à vélo. Cette femme, c'était ma mère. L'hôpital Lyon-Sud de Pierre-Bénite la déclara décédée une semaine plus tard. Ce livre est le récit de cette collision qui n'est ni un accident ni un meurtre. Une histoire française du début du XXIe siècle où deux destins parallèles voués à s'ignorer se sont percutés dans un pays éclaté et malade.
Bon, bah, dès les premières pages, le ton est donné, c'est bouleversant. Alors, par les faits, mais aussi par l'écriture, là, qui est incisive, rigoureuse. Je crois que l'auteur est journaliste, c'est ça ?
Exactement. Tes informations sont bonnes, Dominique.
Bon.
Paul, alors, je ne sais pas si on dit Gagnier ou
Gasnier.
Ah bon. Paul Gasnier est journaliste politique. On peut le voir ou l'écouter dans l'émission quotidienne diffusée sur la chaîne TMC. C'est d'ailleurs dans le cadre de son métier qu'il va décider d'écrire ce livre. En 2022, il couvre la campagne présidentielle et notamment du côté des partis d'extrême droite. Et lors d'un meeting, il prend conscience que l'histoire de sa mère sur fond de délinquance et d'immigration peut tout à fait illustrer et valider une récupération politique.
En effet, il a le sentiment à ce moment-là que son deuil est pollué par des discours qui cherchent à tout prix une signification politique à ce fait divers. Il décide donc de reprendre le pouvoir sur son histoire, notamment en menant une enquête pour mieux comprendre et trouver des réponses à ses interrogations. Et il va s'attacher tout particulièrement à en savoir davantage sur l'adolescent responsable et sur le contexte social dans lequel il vit. En fait, le récit fait alterner le passé, le présent, c'est-à-dire 10 ans après le drame, et la réflexion personnelle. Et dans les extraits qui suivent, il nous parle de sa mère, mais aussi de Saïd, qui a causé l'accident. Sa famille est ce qu'on a coutume d'appeler une famille conformiste, ce qui ne signifie pas qu'elle ne laisse aucune place à l'excentricité, mais plutôt que les parents envisagent pour leurs enfants des vies fléchées par les habitudes. Pour comprendre d'où vient ma mère, il faut se figurer une photo. Celle de son grand-père, un certain Albert de Seguin de Régnier. Un martyr de la résistance, à double particule, dont le portrait en uniforme, regard dur, moustache fine et béret tarte, orne les salons de toutes les branches familiales. L'homme qu'on dit à la rigidité de fer dirigeait le 6e bataillon de chasseurs alpins basé à Grenoble, qu'il fut forcé de dissoudre un matin de novembre 1942. « La seule fois de ma vie où je l'ai vu pleurer », répétait ma grand-mère, quand les Allemands achevèrent d'engloutir la France. Il entra alors en résistance et prit la tête de l'armée secrète de l'Isère, puis du maquis du Vercors, en profitant de la couverture que lui procurait sa fonction à l'Office des eaux et forêts. Une double vie qui prit fin lorsqu'un des siens retourna sa veste et le dénonça à l'occupant. Les gabardines en cuir de la CISPO SD l'arrêtèrent un mois avant le débarquement, pour l'assassiner, suppose-t-on, aujourd'hui quelque part entre la prison lyonnaise de Montluc et les bords de l'Isère. Son corps ne fut jamais retrouvé, son dénonciateur, si. Il fut abattu par les maquisards en août 1944. C'est sous le joug écrasant, quasi christique de cette photo que les enfances de ma mère, de ses sœurs et de ses cousines se sont déployées. J'évoque cette histoire parce qu'elle plante le décor familial et parce que mes recherches m'ont appris que le père de Saïd avait lui aussi longuement servi dans l'armée française. C'est le seul fil qui relie sa famille à la mienne avant la collision de 2012. D'après le peu d'informations dont je dispose, je sais qu'il a servi en Indochine, un champ de bataille sur lequel la France envoyait des colonisés se battre contre d'autres colonisés afin de sauver son empire en perdition. Les historiens estiment que 150 000 soldats maghrébins ont été envoyés pour y combattre l'insurrection nationaliste de 1947 à 1954. Les deux hommes, le père de Saïd et mon arrière-grand-père, ne se sont jamais connus. Ils ne venaient pas du même monde. Mais ils parlaient le même langage, celui de l'armée. Si les Allemands ne l'avaient pas assassiné, peut-être mon aïeul aurait-il côtoyé le père de Saïd dans quelques garnisons sur un champ de bataille ou lors d'une cérémonie militaire à Lyon ou à Grenoble. Lui, le commandant Aristo, décoré de la Croix de guerre et de la Légion d'honneur, aurait pu partager le clairon avec ce jeune soldat maghrébin
prêt à tout pour s'intégrer par le travail, malgré les brimades racistes de la France des années 1950. L'armée est un des rares carrefours où nos deux familles, qui écrivaient leur destin parallèle, auraient pu se croiser. Ma mère naît à Grenoble en 1957. Ses premières années jusqu'à l'école primaire se déroulent à Sainte-Égrève, une petite commune pavillonnaire de la banlieue grenobloise. Bien loin du jeune Marocain qui, au même moment, porteur de rêves et de projets, arrive à Lyon, à seulement une centaine de kilomètres de là. Mais de ces Maghrébins qui débarquent, personne ne parle dans la famille, sauf ma grand-mère, qui, dans le cadre d'une de ses nombreuses activités bénévoles, travaille en milieu pénitentiaire dans la région lyonnaise. Chaque semaine, elle tient des permanences du Secours catholique, où elle offre café et réconfort aux mères de famille, parfois maghrébines, qui attendent leur tour pour voir leur fils au parloir. Elle participe à plusieurs mesures de soutien aux prisonniers, des rencontres dont l'objectif est de casser leur solitude et des ateliers de sous-traitance visant à leur faire gagner le pécule suffisant pour rembourser leurs dettes. La famille s'installe à Versailles en 1975. Ce n'est pas le Versailles à serre-tête et cabans bleu marine que l'on imagine. La troupe tient plutôt de la grande smala bordélique et désargentée, administrée comme une colonie dont chaque enfant s'émancipera à sa manière. Régulièrement, la famille se réunit pour de généreuses cousinades organisées par un grand-oncle sur le domaine familial. L'occasion pour la fratrie de se consoler que le destin les ait posés sur la branche la plus déconnante de l'arbre en se bidonnant de l'accent à patate chaude des grand-tantes et de l'air compassé de ses vagues cousins qui s'enflent de posséder des titres et des manières. Toujours la photo de l'aïeul résistant, le héros du Vercors au regard sévère, veille sur les évolutions de chacun. Ma mère grandit dans cette famille qui commence à se décorseter, dans cette France du yéyé, des nappes à motifs, des pulls qui grattent et du plein emploi. Dans le Versailles des années 1970, la moto, avant d'être l'arme qui la tuera, est pour elle et celle de sa génération l'emblème de la liberté et des premiers émois. Ma mère rencontre mon père en 1976 et l'épouse 3 ans plus tard. La relation avec ce fils unique de la classe moyenne la libère de son milieu et lui fait découvrir les frissons d'une existence sans protocole. Elle aura toujours cette drôle de phrase « Maintenant que je suis mariée, je fais ce que je veux ». À Paris, ma mère termine ses études d'architecture et vit chichement avec mon père. Il s'installe pour quelques années dans le sud de la France, mène une vie de maison avec jardin, jusqu'à ce déménagement à Prague qui tirera définitivement un trait sur leurs rêves de bohème. Après Prague, les expatriations successives les mènent à Milan, à Nice, puis à Londres. En parallèle de cette trajectoire, les parents de Saïd en construisent une autre, presque en miroir inversé. Quand ma mère fuit l'enracinement séculaire de sa famille en multipliant les déménagements, mue par la croyance de l'époque selon laquelle la réalisation de soi passe nécessairement par le déracinement géographique, les parents de Saïd, eux, qui furent arrachés à leur Maroc originel, s'établissent fermement à la Croix-Rousse dès les années 1960, un quartier où grandissent tous leurs enfants. Deux histoires françaises qui racontent chacune leur version de la même époque. Pour l'une, l'émancipation par la prise d'autonomie et les nouveaux départs. Pour l'autre, l'intégration culturelle par le travail et l'enracinement. Mes parents poursuivent leur vie sans attache, toujours du côté privilégié de la mondialisation, celui qui met les enfants dans des lycées français, pimente son phrasé d'anglicisme et qui vote à gauche, évidemment. Ils sont de ceux qui hurlent d'effroi le soir du 21 avril 2002, s'indignent des discours sécuritaires, se disent concernés par l'inculture de Sarkozy et voient dans son bande de racailles lâchée sur la dalle d'Argenteuil en 2005 le comble de la vulgarité et de l'excitation des passions tristes. 2005, justement. Mes parents l'ignorent, mais tout va basculer cette année-là, quand ils décident de quitter Londres pour emménager à Lyon, à la suite d'une nouvelle affectation professionnelle de mon père. Première étape de l'engrenage d'une série de petites décisions anodines, qui, 7 ans plus tard, placeront ma mère sur le chemin mortel du gamin de la Croix-Rousse, qui, à ce moment-là, n'est qu'un jeune adolescent, n'a pas de moustache ni de casier judiciaire, et va lentement commencer à se déscolariser.
Tout avait pourtant bien commencé. À 12 ans, Saïd fréquente le centre réservé aux enfants, quelques rues plus haut. Pendant ses années de collège, il appartient à un petit groupe de jeunes que les éducateurs emmènent à la montagne ou initient au sport d'eau vive. Il intègre même l'équipe de futsal qui participe à des championnats intercentres sociaux partout en France. Mounir voit pourtant le garçon espiègle, choyé par sa famille et apprécié des éducateurs, montrer les premiers signaux inquiétants. Les après-midi passés à descendre des canettes de bière et à fumer des joints sur les murets du parc de la place Colbert. Et l'indolence qui transforme l'enfant en jeune, de plus en plus insaisissable. Saïd va moins souvent en cours. Il se met à traîner devant des halls d'immeubles, puis ne se cache plus d'être l'un des nombreux revendeurs de shit des pentes de la Croix-Rousse. Il y a tellement de fric, mais tellement de fric. C'est pour ça que c'est difficile de les aider. Mounir n'a pas vu Saïd depuis 10 ans, mais parle de lui comme s'il lui avait passé un savon le matin même. Il décrit un petit caïd à 2 francs, une tête de lard, un dealer à la petite semaine qui n'hésitait pas à frimer quand les mois étaient fructueux. Un autre éducateur social croit savoir qu'il lui arrivait de gagner plusieurs centaines d'euros par jour. Avec le temps et l'âge, certains de la bande accéderont à une autre dimension, se mettront au braquage ou au trafic de plus haut niveau. L'un de ceux qui a couru sur le lieu de la collision pour faciliter la fuite de la moto montra avec ses frères l'une des plus grosses filières de cocaïne de Lyon. Il traînait avec une bande plus audacieuse qui braquait des commerces, des supérettes, des stations-service. C'était une équipe de bras cassés qui se croyaient plus forts que tout, sûrs de leur coup, tout le temps, quoi. À cette pression sociale se greffe un autre élément déterminant. Le jeune Saïd est écrasé par le charisme de son grand frère, à qui il voue une admiration sans borne. C'est peut-être là que se situe l'une des clés de compréhension du personnage. Et c'est aussi la théorie de l'avocat Alfred Cordier, un garçon qui n'est jamais parvenu à acquérir la stature de son aîné et qui s'est épuisé en coups de pied et de poing pour tenter d'exister dans son regard. La malédiction d'avoir un grand frère meilleur que soi. Je n'ai pas suffisamment d'éléments pour entrer dans l'intimité d'une relation qui a pris fin brutalement, mais plusieurs sources m'ont confirmé que Saïd a grandi perpétuellement amoindri par l'aura de son aîné et qu'il s'est réfugié dans l'amitié d'une bande dont il n'a jamais saisi la toxicité, un petit clan de semblables qui ont comblé son besoin de reconnaissance au moment crucial de la sortie de l'adolescence. Contrairement à la génération des grands frères, dont la discrétion était la mesure de leur notoriété, Saïd et ses amis débordent, ils friment, louent de grosses voitures et se font remarquer dans une quête inespérée de reconnaissance. La drogue n'est jamais qu'une voie d'enrichissement facile, c'est un écosystème. Mounir décrit même une gangrène devenue culturelle. L'appât du gain, les films américains, les clips de rap, les gonzesses, les motos, les Ferrari, les liasses de fric... Ils sont tous dans ce délire, ils rêvent de ce monde-là. Ils se prennent pour des barons et roulent comme des barjots. C'est une piste cruciale, mais politiquement sensible, qui expliquerait en partie le comportement qui a mené Saïd à la collision. L'imaginaire lié à la drogue.
Ma mère, elle a quelque chose de dangereuse, quelque chose d'une allumeuse, oh, quelque chose d'une amèreuse. Elle a les yeux qui tuent, mais j'aime ses mains sur mon corps, j'aime l'odeur au-dessous de ses bras. Oui, je suis comme ça. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. je suis dans la merde. Elle sait quand je suis con et faible, et quand je suis bourré comme une baleine. C'est elle qui sait que mes pieds puent, c'est elle qui sait comment je suis nu. Mais quand je suis malade, elle est la reine du suppositoire. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Quelque chose d'une amerdeuse. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Dans les yeux de ma mère.
Bon, on comprend à la lecture des deux extraits, des quelques extraits que vous venez de lire là, que c'est, ça a plusieurs sens en fait, la collision. La collision, c'est pas seulement une collision physique.
Ah non, exactement. C'est aussi une rencontre brutale entre deux trajectoires, un choc social et politique, on l'a vu, et le titre évoque aussi le conflit intérieur du narrateur.
Oui, et comme on l'a dit précédemment, l'auteur va éprouver le besoin d'avoir des informations. Car il l'écrit lui-même, ma connaissance de l'événement était restée superficielle. Donc il va faire des tas de recherches et surtout rencontrer plusieurs personnes, et en particulier l'avocate Saïd, maître Cordier, qui est, on peut le dire, un ténor du barreau sur la ville de Lyon. Il m'a fallu 10 ans pour écrire à Alfred Cordier. C'est une démarche étrange de s'intéresser au profil du tueur au point de s'asseoir dans le fauteuil qu'il a lui-même occupé lorsqu'il a établi sa stratégie de défense. La logique du fils en deuil voudrait plutôt que je me concentre sur ma mère, que je fasse connaître la femme qu'elle fut, que je parle de la chaleur de son regard, de ses fous rires, de son féminisme décalé, de tout ce qu'elle m'a transmis. La même énergie pourrait être déployée à récolter les détails du quotidien qui la ressusciterait, à retranscrire les dialogues intérieurs que j'établis avec elle, et le détachement avec lequel s'installe le deuil, cet état quotidien qui altère la vie sans rien en changer. J'ai lu le récit d'un homme dont la femme a été tuée au Bataclan. Il raconte comment il continue de vivre avec son fils malgré la béance. Son point de départ consiste à ne laisser aucune place à l'homme qui a tué sa femme. Il se concentre sur l'absence de la personne qu'il a aimée et s'attarde peu sur les circonstances de sa mort, autrement plus dramatique. L'absence est l'apprentissage de son insupportable colocation et pour lui le seul objet d'étude qui compte. Penser au coupable, lui accorder ne serait-ce qu'une fraction de temps de réflexion serait une fausse piste qui empêcherait de rendre hommage à la femme qu'il a aimée. J'ai répété la même chose pendant des années. Saïd, j'ignore ce qu'il est devenu. Le verdict, je suis incapable de m'en souvenir. 3 ans de prison, je crois. Quand Alfred Cordier me parle de son ancien client, il renverse la tête en arrière et fixe le plafond à moulure. Saïd, je l'ai connu tout gosse, il devait avoir 6 ans. À l'adolescence, il s'est mis à traîner avec toute une bande de jeunes qui faisaient des conneries ensemble. Des petites conneries. Il volait, il fumait des pétards, il mettait des points de deal. Dans le quartier, les jeunes faisaient comme à San Francisco. Ils accrochaient des baskets pourries sur des lignes électriques. L'évocation de ces souvenirs le fait sourire. Il y avait même un proc qui habitait dans le quartier et qui prenait des photos. C'était assez... Les mots sont choisis. Je dirais pas marrant, mais il y avait une vie de quartier, quoi. Il faisait partie de ces gens de la Croix-Rousse. Alfred Cordier comprend ma démarche. Pas une seule fois, l'avocat ne me demande pourquoi je m'obstine à vouloir en apprendre davantage sur son client. Il doit savoir que le deuil emprunte parfois des trajectoires en hors-piste. Certains érigent des mausolées, d'autres suivent des psychothérapies ou avalent des antidépresseurs. Il y en a qui changent de vie, fondent une famille ou créent des associations. Dans mon cas, je traverse une situation qu'aucun manuel de développement personnel n'a prévue et qui semble, au premier regard, n'offrir que deux alternatives. La première consiste à se laisser commander par la rage et à en vouloir à tous les saïds, à mettre en coupe réglée les quartiers et à jouir silencieusement à la vue de policiers qui menottent en se disant que ce sera toujours une goutte de justice rendue dans un océan d'anarchie. L'autre alternative, tout aussi radicale, est celle préconisée par Gandhi, qui conseilla un jour à un musulman dont le fils avait été massacré à coups de machette par une foule déchaînée d'hindous de ne surtout pas se venger, mais d'adopter un enfant au plus vite, en prenant bien soin de choisir un hindou, et surtout pas un musulman. Je ne sais pas si l'homme a obéi à l'injonction du Mahatma, mais on touche là une grandeur d'âme hors d'atteinte pour les individus ordinaires. Entre ces deux alternatives, il y a un petit interstice ou, si l'on préfère, une ligne de crête sur laquelle on progresse avec précaution. C'est l'écriture. Pour comprendre, à défaut de pardonner, et à défaut de comprendre, du moins peindre le tableau le plus juste de ce qui s'est passé et l'éclairer du mieux que l'on peut pour peut-être vivre en paix. Écrire, c'est aussi un dernier ressort, sans doute illusoire, pour se convaincre que l'on maîtrise le tueur. Car mon deuil n'a pas beaucoup d'intérêt, pas plus qu'un autre. Ce sont ces circonstances qui en ont et qui rendent sa douleur particulière. Elles encapsulent la petitesse de nos comportements lorsque le drame en commande de plus noble et les peurs et les fantasmes d'une société dans laquelle deux mondes, que tout oppose, partagent le même espace urbain.
Like the roses, she'd grow them in the yard. But winter always came around and made the growing way too hard. Oh, mama liked the roses, and when she had the time, she'd decorate the living room for all us kids to see. When I hear the Sunday bells ringing in the morning, I remember crying when she used to sing. Like the roses, but most of all she cared about the way we learn to live and if we said our prayers. You know, I kept the family Bible with a rose she saved inside. It's pressed between the pages like it found a place to hide. Oh, mama liked the roses in such a special way. We bring them every Mother's Day and put them on her grave. Oh, mama liked the roses. Mama liked the roses.
roses.
Voilà, donc il y a également une autre rencontre qui va jouer un grand rôle dans le parcours de l'auteur, n'est-ce pas ?
Alors oui, une rencontre très importante qui, à mon avis, a été déterminante, et qui peut quand même paraître surprenante parce que Paul Gasnier décide de contacter la sœur de Saïd, qui s'appelle Hafsia. Sa réponse mit du temps à arriver. Après quelques jours de silence que j'interprétais comme ceux de la réflexion, elle tenta de m'appeler plusieurs fois, en numéro masqué, méfiante, ne voulant pas révéler son numéro de téléphone. Finalement, un soir, je décroche. Nous convenons d'un rendez-vous et je retrouve, quelques jours plus tard, sur un trottoir de la place Bellecour, le même visage qui s'était présenté à la sortie du procès en 2013. Hafsia a 39 ans. La mine soignée, un manteau élégant, un maquillage discret et de longs cheveux noirs. De toute évidence, elle s'est préparée pour ce rendez-vous, qui est aussi important pour elle que pour moi. L'un de nous tente un « ça me fait plaisir de vous voir », le mot « plaisir » n'étant pas le plus approprié, on aurait préféré dire « ça me soulage » ou « enfin nous y sommes » ou quelque chose comme ça. On se met d'accord sur le tutoiement, mais il ne sera jamais adopté. La distance protège. Les premières minutes de notre rencontre sont gênantes. On s'assure que l'autre a bien commandé un café, qu'il est certain de ne pas vouloir de sucre, que l'endroit lui convient, qu'on peut aller ailleurs si vous préférez. On ne sait pas trop par où commencer. Hafsia est mère. C'est important parce que pour elle, rien n'est plus précieux que la famille. En témoigne sa sincère sollicitude à notre égard, sa façon de demander comment nous allons, comment mon père s'est reconstruit après la mort de sa femme. Si je suis mariée, si ma sœur a des enfants et quel âge ils ont. Son regard est inquiet et sa voix chevrotante. C'est une femme qui a peur. Une partie de sa famille a tenté de la dissuader de me rencontrer, ne voyant dans mon surgissement et la réminiscence du passé qu'une nouvelle source de problèmes. Elle se demande quelle catastrophe ce rendez-vous annonce, comme si un mot de trop de sa part pouvait être retenu contre Saïd et rouvrir le procès. Plusieurs fois, pendant notre conversation, elle s'assurera que ma démarche ne dissimule pas quelques projets de vengeance masqués que j'aurais tisonnés pendant une décennie. De mon côté, je n'emmène pas large. Une maladresse pourrait saboter cet embryon de confiance qu'elle accorde. Il y a quelque chose d'incommodant, de transgressif presque, à se donner rendez-vous loin des regards, comme ça, pour remuer un passé qui nous poursuit encore. En dépit de ses craintes, Hafsia est venue, fidèle à la main qu'elle a tendue 10 ans plus tôt, dans le hall du tribunal de Lyon. Le petit Saïd, qui devenait de plus en plus incontrôlable, était désormais coupable d'avoir tué. Encore aujourd'hui, il peine à se reconstruire et son travail de guérison, comme elle dit, n'est toujours pas achevé. Vraiment, il a mis des années à accepter le décès de votre maman. Vous n'étiez pas avec nous, vous ne pouvez pas le savoir, mais... je vous assure qu'il était en dépression pendant plusieurs mois. Dans les jours qui suivent la collision, la famille quitte définitivement la cour des voraces. Saïd, en liberté conditionnelle, se replie sous une carapace de mutisme. Il reste enfermé dans sa chambre, incapable de communiquer avec ses parents et avec ses sœurs. Quand il retourne en détention, sa famille lui rend visite régulièrement. Au parloir, ils font en larmes, dévastés par la vie qu'il a abolie. Il écrit aussi des pages et des pages où il espérait que votre famille allait le pardonner, qu'il souhaitait le paradis à votre mère. D'autres témoins qui ont croisé Saïd après la collision m'ont parlé de la manière dont l'événement avait vidé son regard et éteint la flamme. Hafsia raconte sans détour le parcours chaotique de ce petit dernier dont elle reconnaît qu'il s'est perdu sur un mauvais chemin. L'accident, plutôt que de servir de tir de sommation, l'a entraîné plus loin dans la perte de soi en le faisant basculer psychologiquement. Saïd a toujours été instable, fragile. La faute au quartier, selon elle, et à ses mauvaises fréquentations. Les garçons de cet âge-là, ils voulaient grandir trop vite, rentrer avec une voiture, montrer leur réussite, frimer, rouler vite, boire. C'est vrai que la plupart de nos frères ont un parcours décevant. À l'écouter, on comprend que son assurance et son autorité naturelle ont fait de Hafsia la cheftaine de la famille, vers laquelle les membres se tournent en cas de problème. C'est elle qui sermonne Saïd en pleine rue, quelques mois après la collision, quand elle l'aperçoit dans le quartier où il n'a pas le droit de mettre les pieds. C'est elle qui prend sous son aile à la sortie de prison et qui lui conseille en vain de consulter un psychologue ou un imam, une aide qu'il refusera toujours, invoquant la peur d'être jugé et la difficulté d'exprimer une douleur qui ne concerne que lui. C'est elle qui, depuis l'accident, aide ce petit frère qui tente de se reconstruire maladroitement et qui trébuche souvent pour dégringoler dans de nouvelles salles de tribunal, devant des juges d'instruction qui connaissent désormais son nom et son parcours. Plus qu'une chef logistique, Hafsia parle en gardienne de l'honneur familial. Tout juste reconnaît-elle du bout des lèvres que son petit frère a pu vendre de la drogue à un moment de sa vie. C'est le seul sujet sur lequel son visage se ferme et sa lucidité se brouille dans un inexplicable déni. Hafsia met un point d'honneur à ne pas alimenter les clichés comme si elle sentait que sa famille, son nom, son origine, sa position sur l'échelle sociale et les frasques des garçons risquaient de valider tous les stéréotypes que son parcours personnel bat pourtant en brèche. Il y a chez Hafsia un impératif à conjurer les préjugés qu'elle voit naître dans le regard des autres afin de s'assurer qu'il n'y a pas mépris sur la personne. Régulièrement, elle rappelle que sa famille n'est pas pauvre, qu'elle vit confortablement grâce à la pension militaire de son père. Preuve en sont les coûteuses études qu'elle et sa sœur ont faites et les vacances annuelles au Maroc où la famille rend visite aux cousins. Hafsia se concentre sur les notes d'espoir qui parsèment le parcours abîmé de son frère. Depuis l'accident, Saïd a eu un enfant, je l'ai dit, et elle m'apprend qu'il a suivi une nouvelle formation jusqu'au bout qui lui a permis de monter une petite entreprise de sous-traitance. Il est débordé par tout ce qui est paperasse, il n'a pas l'habitude. C'est difficile à cause de ce qu'il a vécu, mais je l'aide. Aujourd'hui, 13 ans après l'accident, l'affaire marche suffisamment pour qu'il en vive. Devant le récit d'abnégation de cette sœur courage, je sens qu'une partie de moi est rassurée d'apprendre que Saïd commence à s'en sortir. C'est un drôle de sentiment presque honteux, dont le risque d'apparition était inhérent à la décision d'entrer en contact avec sa famille. Au fond, peut-être que j'écris tout cela pour lui montrer que les erreurs qu'on fait peuvent amocher les autres à vie, qu'autrui ne se réduit pas toujours à un obstacle à franchir dans la quête du plaisir immédiat et que la reconstruction est à la portée de chacun. Et à voir le dévouement que cette femme déploie pour remettre Saïd sur le droit chemin, je me surprends même à me demander s'il n'est pas pire d'avoir un petit frère danger public que d'avoir perdu sa mère.
Afsia évoque le milieu dans lequel son frère a grandi. Qu'est-ce que le livre en dit justement? Qu'est-ce que ça dit de notre société?
Alors c'est une part importante du récit, hein, toutes ces interrogations. Donc l'auteur, lui, donc, s'interroge sur les raisons qui ont pu engendrer cette confrontation, cette collision. Donc il fait référence aux manquements, aux travers, aux responsabilités collectives et individuelles de nos institutions, mais aussi l'évolution de notre société. Et voilà ce qu'il en dit, on va vous lire deux extraits. Donc il rapporte dans un premier temps les propos d'un policier, Alain, qui fait partie des nombreuses personnes qu'il a rencontrées.
Il parle plutôt d'un système saturé. Cette saturation est frappante quand on se rend au commissariat central de Lyon, celui où il a exercé pendant 20 ans. Un policier qui a enquêté lui aussi sur la collision me reçoit dans les couloirs. À cause de sa dégaine de vieil ours qui a tout vu, on le surnomme le pilier. Sa tanière est un bureau minuscule de 10 mètres carrés qu'il partage avec un collègue où les procédures jonchent le moindre espace disponible, si bien que les armoires ne ferment plus et que leurs étagères en métal ploient sous le poids du travail qui reste à abattre. Des tas de dossiers s'empilent sur les coins de table, jusque sur les chaises en bois prévues pour les rendez-vous, disparus sous des entassements de pièces sous scellés. Le pilier estime qu'il manque une dizaine d'hommes dans sa brigade. Tous les policiers que vous voyez là, ils ont chacun plus de 250 dossiers de procédure en cours ou à traiter. Lui aussi dénonce une procédure pénale qui s'est complexifiée au fil des ans, multipliant les risques de vice de forme, la hantise des policiers, ces fissures qui offrent aux délinquants autant d'occasions de s'extirper. On est obligé de convoquer, d'entendre les gens, de passer par les médecins, les psys. Il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Aucun dossier n'est traité en une journée. Ça prend au moins une semaine. Pendant que vous faites un dossier, un autre arrive. Donc, vous le mettez de côté. Rien qu'en vous parlant, je prends du retard. Il faut prendre ce que ces hommes disent avec précaution. C'est un point de vue de policier, partiel, qui se focalise nécessairement sur le pire, qu'il s'agisse des individus ou des mécanismes qui rendent la cohabitation collective vivable. Comme me le dira un magistrat, si la justice était rendue par les flics, on serait tous en tôle. Mais l'analyse du parcours de Saïd raconte aussi les manquements de services publics qui se sont retrouvés désarmés face à la délinquance du quotidien, aggravée par le trafic. L'accident n'est pas qu'une imprudence individuelle, il est le résultat d'un lent ravinement collectif qui s'est accompli par étapes, par érosion budgétaire successive et a permis la dérive toujours plus lointaine d'hommes privés peu à peu de perches solides à saisir. Alain parle aussi d'une génération qui aurait plus d'aplomb que la précédente, qui choisirait la violence plus facilement que ses aînés, sans qu'il soit capable de l'expliquer, encore moins de le chiffrer. Les rapports avec les gens sont plus difficiles, plus tendus qu'avant. Il y a 20 ans, on pouvait arriver dans un appartement à deux pour interpeller quelqu'un. On se faisait insulter par les grands frères, mais on n'était pas agressé. Alors que là... Il avale son café d'une traite et termine par une révélation soudaine qui semble le surprendre au moment même où il la formule. Pour être complètement honnête, les comportements des flics ont changé aussi. Aujourd'hui, on a des golgothes rasés et harnachés comme des porte-avions. En fait, tout le monde est devenu plus violent.
Alors effectivement, le monde a changé, la société a changé. Et l'extrait que je vais vous lire parle aussi d'un phénomène récent qui finalement a une signification dans toutes ces difficultés que nous, malheureusement, nous propose notre société actuelle. Les jeunes qui rentrent au pays s'y font remarquer parce qu'ils roulent vite et qu'ils font du bruit. Et rouler vite en faisant du bruit, en pétaradant, en exécutant des roues arrière en motocross, des dérapages enfumés avec sa voiture sur un parking de bord de mer, est non seulement un passe-temps populaire, mais un signe de réussite. Celui qui veut signifier son émancipation économique, voire le dépassement de sa condition humaine, le fait, en enfourchant une moto rutilante qui devient l'allégorie de sa vie, une monture dont il prouve à tout le monde qu'il sait la maîtriser et lui dicter sa route. Il n'y a qu'à faire un tour sur les réseaux sociaux de la bande de Saïd pour prendre la mesure de la prégnance de cette culture. Presque tous mettent en ligne des photos où ils posent assis sur une motocross, parfois en exécutant un V ou un W avec les doigts. Un jour, des historiens ou des anthropologues se pencheront sur le rodéo urbain et verront peut-être une corrélation entre l'apparition du phénomène et celle du selfie, à peu près concomitante. Une pratique qui traduit le besoin d'exister par tous les moyens et offre un succès d'années de célébrité dans le cas du selfie et de prouesses sportives dans le cas du rodéo, et où les regards effarés du quartier équivalent à une distribution de cœurs et de pouces levés. La roue arrière incarne aussi ce que l'époque valorise, la prise de risque, le tapage, le kitsch, le dédain envers les plus faibles qui ne sont forcément que des obstacles. Le rodéo urbain ou la traduction délinquante du plus impitoyable néolibéralisme. Il est fréquent de lire que la route est un miroir des maux de la société dans lequel le collectif contemplerait ses traits.
Alors, je n'ai pas lu le livre en entier, j'écoute juste les extraits que vous lisez, et je trouve que le texte traduit beaucoup de sensibilité, la retenue, et il y a aussi beaucoup d'intelligence dans le propos.
En fait, c'est ce qui fait l'intérêt du livre. Moi, je trouve que le témoignage dépasse largement l'histoire familiale. L'auteur ne cherche pas à s'apitoyer, il cherche surtout à comprendre. Et il dit lui-même, comprendre n'est pas pardonner, mais refuser la simplification.
Oui, et j'imagine qu'il aurait été facile de faire des raccourcis et des amalgames. Et là, ce n'est pas le cas.
Et non, en fait, l'auteur ne bascule pas. Il ne tombe ni dans la haine, ni dans le désir de vengeance. Il ne cherche pas à juger. Et il explique, bien évidemment, que cela lui a été possible 10 ans et 160 pages plus tard. Exactement. Évidemment, ça n'a certainement pas été sa réaction immédiate.
Le recul qui lui a permis d'atténuer la colère et le ressentiment.
Ouais. Tout à fait. Donc, au fil de ses rencontres, des recherches, donc, ses pensées ont été en mouvement et il a toujours été en quête de sens plutôt que de verdict. Donc, il ne donne pas de leçons et il n'impose pas de vérité. Il s'attache surtout à ouvrir des pistes, à guider notre réflexion. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre. Je l'ai perçu un peu comme une forme de mise en garde de notre appréciation des événements qui pourraient être hâtives et éventuellement faussées.
Alors, c'est aussi quand même un livre touchant, profondément humain. Un récit intime qui invite le pathos, mais aussi un livre utile qui, comme l'a dit Magali, nous fait réfléchir et précisément sur la manière dont un fait qui n'a rien de divers, peut révéler les fractures sociales.
Un livre fort et puissant, on pourrait dire, et qui fait écho à l'actualité si on évoque l'affaire Quentin.
Ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, ce livre a été très apprécié. Il a reçu le prix Goncourt des détenus en 2025. C'est assez symbolique.
Oui,
tout à fait. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Et on le retrouve parmi d'autres sélections de prix littéraires, lors de nombreuses sélections. Hein. Et notamment un prix que je ne connaissais pas, qui s'appelle le prix du livre humaniste, dont c'est la deuxième édition. Et je le cite parce que il côtoie ce livre dans cette sélection, L'homme qui lisait des livres de Rachid Benzine, que nous avons présenté la dernière fois.
Et oui, comme quoi nous avons le nez fin. Quelle équipe, hein.
Oh.
Personne n'en doute.
Merci.
Merci.
Voilà. Donc je découvre qu'il existe un Goncourt des détenus.
Oui. Eh bien oui, je n'étais pas au courant non plus.
Il y a le Goncourt des détenus, mais il y a aussi des détenus qui lisent pour d'autres prix, comme le Robles.
Comme le Robles,
tout à fait, qui arrive à grands pas.
Voilà. Vous nous rappelez les références ?
Alors, La Collision de Paul Gasnier aux éditions Gallimard.
2025.
Très bien. Eh bien, merci. Merci Magali, merci Catherine.
Merci.
Pour ce très beau livre. Et puis, je donne rendez-vous à nos auditeurs le mois prochain.
Exactement.
Au revoir.
Au revoir.
Et à bientôt.
Au revoir.
À bientôt.